Bonjour à tous. Excusez-moi, mais comme ça résonne avec mes appareils, je les enlève. Comme ça, vous pouvez faire les commentaires que vous voulez. Je n'entends pas. Voilà, donc ce matin, suite de notre survol du livre de l'Apocalypse, je vous rappelle que le but de ce survol, c'est parce que je comprends bien que ce livre est plein de prophéties qui sont difficiles à saisir et que beaucoup parmi nous préfèrent éviter la lecture de ce livre, tant il peut paraître complexe. Et donc, j'ai décidé de l'aborder uniquement sur son thème central, qui est en fait la révélation de Jésus-Christ. Ce sont les premiers mots du livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Et donc, durant toute cette série, je cherche à ramener nos regards sur Jésus-Christ et de voir tout ce qu'il veut nous dire. J'ai envie de vous donner envie de lire ces textes. Et ce matin encore, il y aura beaucoup de lectures et peu de commentaires. Nous allons survoler un peu les chapitres, essentiellement les chapitres 5 à 11 ce matin. Ce livre nous dit que Jésus revient. Et on s'est déjà posé la question, pourquoi Jésus revient ? Pourquoi Jésus revient ? Le texte nous dit, il revient pour juger la terre. Bon, pas très facile comme message, n'est-ce pas ? On peut se dire, mais en quoi est-ce une raison de se réjouir que Dieu vienne juger ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de craindre ? On a raison de se réjouir parce qu'en fait, c'est la réponse à la question implorante de ces enfants qu'il y a dans ces premiers chapitres. Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Et nous arrivons au chapitre 8 et on quitte le trône de Dieu pour se diriger vers l'autel. Et qu'est-ce qu'il y a à l'autel ? Il y a les prières des saints, qui ont déjà été évoqués un peu, rapidement au chapitre 6. Et dans ces prières des saints, il y a cette phrase, cette question, « Seigneur, jusqu'à quand ?» Ah, vous dites qu'il y a un trône dans le ciel, qu'il y a une foule immense. Alors pourquoi ce silence de Dieu lorsque je suis en souffrance ? Et effectivement, le chapitre 8 nous parle du silence, du silence d'une demi-heure au ciel. Mais que veut dire une demi-heure dans l'éternité ? Pardon. Et dans nos vies, les silences sont parfois longs, n'est-ce pas ? Et peut-être avons-nous toutes posé ces questions un jour, face à ce qui arrive aux chrétiens en Syrie, en Irak, face à l'épreuve, face aux maladies. Est-ce que Dieu va enfin se décider à faire quelque chose ? Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit dans ces chapitres, Dieu vient. Est-ce que j'y crois vraiment ? C'est intéressant, tout à l'heure, on nous a fait chanter, je vous ai déjà dit, il faut faire attention à ce qu'on nous fait chanter, on nous a fait chanter, convainc-moi de ta puissance, surprends-moi par sa majesté. Ça semble quand même vouloir dire que le poète qui a écrit ça sait très bien que ce n'est pas une évidence, n'est-ce pas ? Et qu'on a besoin régulièrement d'être tout à nouveau convaincu par cette puissance et par cette majesté. Et je rappelle que le but de la prophétie, je vous l'ai déjà dit, c'est de faire de ces choses éternelles une réalité dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, pour que je puisse y investir, m'investir totalement dans ce présent. L'autre remarque que je ferai, c'est que bien entendu, je ne vais pas aborder toute la problématique de la souffrance, sinon on est encore là ce soir, mais uniquement à travers quelques chapitres de l'Apocalypse, et encore, je vais me limiter à la souffrance des croyants. Juste une facette, quelle solution biblique pour vivre la souffrance, Et la solution qui nous est proposée, c'est l'espérance. Donc ce matin, je vous propose trois réflexions. Première réflexion, la souffrance de Christ est antérieure à la nôtre et elle encadre, elle entoure la nôtre. Deuxième réflexion, c'est qu'il est nécessaire pour nous d'apprendre la persévérance. Et la troisième réflexion, c'est que le texte nous dit « il n'y a plus de délai ». La souffrance du Christ encadre la nôtre. Et j'invite les trois personnes volontaires à le faire, à venir nous lire ce qui n'est pas un texte biblique, ce qui est un sketch qui s'appelle « La fin des temps ». Vous prenez chacun, hop, appuyez sur le bouton pour que ce soit vert. Venez devant les... Venez là. Oui, oui.
À la fin des temps, des milliards d'êtres humains furent rassemblés sur une immense plaine devant le trône de Dieu. Devant la lumière aveuglante qui émane du trône, la plupart reculent. À l'avant de cette multitude, il y a cependant quelques groupes de personnes qui mènent des discussions animées et quelque peu arrogantes.
Comment Dieu peut-il nous juger ? Que sait-il, lui ? Des souffrances que nous avons endurées. Nous avons subi l'horreur des camps, les coups, la torture, la mort.
Pourquoi devrais-je mourir ?
Souffrir.
Ce n'était pas de ma faute.
Chacun avait ses raisons pour s'en prendre à Dieu qui avait permis le mal et la souffrance dans ce monde. Ah, qu'il devait être heureux, Dieu, de vivre au ciel, où tout est harmonie, lumière, où il n'y a jamais ni larmes, ni plaintes, ni craintes, ni famine, ni haine. Que savait-il donc de tout ce que les hommes doivent subir ? Ne vivait-il pas dans sa tour d'ivoire, loin des troubles, de l'agitation et des tourments ? Voilà ce que se disaient les gens dans la plaine. Chaque groupe désigna pour exposer son point de vue celui de ses membres qui avait le plus souffert. Là, au centre de la plaine, les délégués réunirent, dressèrent la liste des revendications qu'ils allaient proposer.
Pour que Dieu soit reconnu qualifié pour juger notre cause, il faut qu'il subisse toutes les épreuves que nous avons endurées nous-mêmes.
Nous proposons donc que Dieu soit condamné à vivre sur terre comme un homme.
Qu'il naisse juif.
Que la légitimité de sa naissance soit mise en doute.
Qu'on lui fournisse un travail si difficile que même ses proches le traiteront de fou lorsqu'il s'efforcera de l'accomplir.
Qu'il soit trahi par ses meilleurs amis.
Qu'il soit accusé faussement, jugé par un tribunal qui ait des partis pris et condamné par un juge lâche.
Qu'il connaisse le goût de la torture.
Enfin, qu'il fasse l'expérience de la solitude la plus totale.
Puis qu'il passe par la mort, de manière à ce qu'il ne subsiste aucun doute quant à sa réalité.
Que beaucoup de témoins s'en assurent.
À l'énoncé du dernier châtiment, c'est le silence complet. Pas le moindre bruit. Car chacun, soudain, réalise que Dieu, en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, a déjà subi l'horreur de cette condamnation.
La souffrance,
le supplice,
l'abandon,
le rejet,
le racisme,
la trahison,
la déception,
la torture,
la solitude,
la mort.
Tout cela pour moi, tout cela pour toi.
Revenons au texte biblique. Apocalypse chapitre 1, verset 5, ne cherchez pas. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Chapitre 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé.
Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. »
Je vous cite John Stott, un théologien du siècle dernier, qui dit « La plus grande souffrance que l'on puisse éprouver, ce n'est pas le malheur en soi, ni la douleur qui en découle, ni même son injustice. C'est le semblant d'abandon de la part de Dieu. Si la souffrance est supportable, l'indifférence apparente de Dieu ne l'est pas. » N'est-ce pas? C'est vrai que certaines circonstances dans nos vies nous font penser que Dieu serait comme un roi un peu désœuvré, voire assoupi, sur sa chaise longue, sur son petit nuage, nullement préoccupé de ce que je vis. Ou un spectateur bien calé dans son fauteuil et qui regarde se dérouler ce spectacle, spectacle de notre vie et donc spectacle de nos souffrances. Job osera même dire au chapitre 9, « Dieu se rit de l'épreuve des innocences. » C'est une caricature de Dieu, bien sûr, horrible, mais qui peut nous venir à l'esprit, reconnaissons-le. Mais cette caricature de Dieu, la croix, la réduit en miettes. Parce que, mes amis, Dieu n'est pas sur un transat, mais sur une croix. Ce Dieu qui permet que la souffrance m'atteigne a lui-même souffert en Jésus-Christ. Dieu n'est pas impassible ni insensible. Au contraire, de par l'intérêt qu'il me porte, qu'il nous porte, il souffre aujourd'hui avec nous et pour nous. Parce qu'en Dieu se trouve une tension permanente entre sa colère contre le péché, sa colère contre mes péchés, et son amour envers les sujets de cette colère, son amour envers moi, son amour envers vous. Et donc Dieu souffre. Il souffre chaque fois qu'il est déchiré entre sa colère et son amour, entre sa justice et sa miséricorde, à cause de moi, à cause de nous. Je dirais qu'au cœur de l'Évangile se trouve la souffrance de Dieu. Ne l'oublions pas. D'ailleurs, juste un exemple. Rappelez-vous quand Jésus se présente à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Que fait Saul? Saul, il persécute les chrétiens, il persécute les églises naissantes. Que lui dit Jésus ? Je suis celui que tu persécutes. C'est à moi que tu fais du mal. Ah, voilà le Dieu qu'il me faut. Il a laissé de côté son immunité, son impassibilité due à sa toute-puissance, qui est une réalité, bien sûr. Puis il est entré dans notre monde de chair, de sang, de larmes et de mort. Il a souffert pour nous, puis avec nous. Et devant l'incompréhension, voire l'agressivité de nos pourquoi, mais pourquoi la souffrance ? La croix de Jésus-Christ est le seul moyen dont Dieu dispose pour se justifier dans un monde tel que le nôtre. Apocalypse 6, verset 11.
Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.
Chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains.
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais ?» Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. »
Chapitre 19, 11 et 13. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Mes amis, ces textes nous disent que nous avons une tunique blanche, celle du Christ est teintée de son sang. Notre tunique est blanche au ciel, celle du Christ est tachée de son sang. Certains théologiens se posent même la question de savoir si au ciel, nous n'aurons plus aucune cicatrice. On est d'accord, nos corps seront entièrement renouvelés. Est-ce qu'il n'y aura pas une personne dans ce ciel parfait qui possédera encore des cicatrices ? On peut se poser la question, puisque le Christ ressuscité en avait lorsqu'il se présentait à ses disciples. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, Dieu souffre avec nous. Sa souffrance encadre la nôtre. Sa souffrance entoure la nôtre. Que cela soit un encouragement pour nous. Nous ne sommes pas seuls. Deuxième réflexion, la nécessité d'apprendre la persévérance. Trois raisons qui rendent nécessaire la persévérance selon ces textes. Première nécessité, c'est pour notre perfectionnement. Et là, je sors d'Apocalypse pour vous lire Hébreux 2, verset 10, qui parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il est question ici d'un perfectionnement de Jésus-Christ par le biais de la souffrance. Jésus-Christ était-il imparfait ? Non, on est d'accord. Donc si Jésus-Christ n'a jamais été imparfait, comment devait-il devenir parfait ? Donc il faut comprendre cette expression comme une nécessité du Fils de Dieu de passer par des expressions pour devenir mûr, pour devenir complet. Ça ne veut pas dire qu'il était obéissant auparavant, désobéissant auparavant, mais ça veut dire que ses souffrances ont été le terrain où cette obéissance s'est manifestée et où elle est arrivée à maturité. Si la souffrance a été le moyen par lequel le Christ parfait et sans péché a atteint la maturité, mes amis, pour nous, est-ce qu'il peut en être autrement ? Il est intéressant de noter que l'épître de Jacques applique ces mêmes mots de perfection et de maturité au cas des chrétiens. De même que la souffrance a conduit Jésus-Christ à la maturité par le chemin de l'obéissance, elle nous conduira, dit Jacques, à la maturité par le chemin de la patience. Et la patience, ça s'apprend. Alors peut-être vous direz-vous, mais alors quelle différence y a avec les incroyants ? Les incroyants aussi, ils souffrent. Et les incroyants aussi, ils apprennent la patience. Apocalypse chapitre 9, verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, donc qui ont traversé ces souffrances, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, de leurs enchantements, de leurs débauches, de leurs vols, de leur idolâtrie. Alors, quelle différence avec les incroyants ? Bien, mes amis, contrairement aux incroyants qui ne changent pas dans la souffrance, qui ne se repentent pas, la souffrance du croyant le transforme. La souffrance du croyant doit le transformer. La souffrance du croyant devrait le transformer. Est-ce notre cas ? Vous vous rappelez quand Jésus pose le grand principe en Jean 12, « Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruit. » Vous allez me dire, c'est facile. J'en ai tout à fait conscience. Je sais qu'il y a effectivement des moments où s'amoncèlent à l'horizon des nuages qui ne présagent rien de bon, où le ciel est une chape de plomb sur nos têtes, où aucun rayon de lumière ne vient nous rappeler que la souffrance pourrait être productive. Dans ces moments, nous ne pouvons que nous accrocher à la croix, sur laquelle Christ lui-même a démontré que la bénédiction jaillissait de sa souffrance. En effet, la souffrance imméritée, la souffrance injuste, fait partie intégrante de notre vocation de chrétien, puisque notre modèle a lui-même souffert injustement pour nous. L'Écriture nous dit, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Deuxième raison qui rend nécessaire notre persévérance, notre apprentissage de la persévérance. C'est parce que je dois survivre durant l'absence, entre guillemets, bien sûr, l'absence apparente de Dieu. Chapitre 11, versets 7 à 10.
Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
De quoi nous parle ce passage ? De deux témoins envoyés par Dieu, qui pendant 3 ans et demi prophétisent, bien entendu, mais en même temps font des miracles énormes. Des miracles dont un particulier, c'est l'eau changée en sang. L'eau changée en sang, ça vous fait penser à quoi ? À Moïse. Et lorsque Moïse change l'eau en sang, tous les incroyants, tous les prophètes des idoles disent quoi ? C'est le doigt de Dieu. Donc là, on a la démonstration de l'existence de Dieu. Et puis ces témoins sont tués, anéantis, leurs cadavres traînent dans les rues, on ne les enterre pas et on se réjouit. parce qu'ils ont enfin disparu. Et dans cette période-là, bien entendu, nous avons toutes les évidences contre l'existence de Dieu. Ces cadavres qui traînent dans les rues sont la preuve pour les gens que Dieu n'existe pas. Pourquoi ce récit dans le futur est important pour nous, même si on n'y sera pas? Parce que dès demain, je peux être moi aussi confronté à cette absence apparente de Dieu, tant les épreuves sont fortes. Est-ce que je vais tenir? Je vais tenir si j'ai en moi cette vision, au chapitre 10, de l'ange puissant. Vous savez, cet ange qui a les pieds sur la terre, la tête dans le ciel, et qui a un livre à la main. Et cet ange dit qu'il n'y aurait plus de délai pour l'intervention de Dieu. Si je veux tenir, il me faut croire dans ces textes. Il me faut m'en nourrir. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 18. Passage que vous avez sûrement déjà souligné. Hébreux chapitre 6, verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Une autre image pour dire la même chose, dans l'Apocalypse, cette fois-ci, chapitre 10, verset 9. « Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Mes amis, nous avons deux choses. Ici, nous avons le rouleau de la parole de Dieu et nous avons le serment de Dieu, la promesse. Deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Le serment de Dieu, le rouleau de la parole de Dieu. Et ce qu'il nous faut pour tenir, c'est de manger cette parole, comme Jean. Cette parole qui est douce parce qu'elle nous présente le cœur de Dieu. Cette parole qui est amère, car les expériences sont parfois douloureuses. Dieu est prêt à maintenir son témoignage avec puissance. Mais la parole ne nous cache pas que notre foi sera mise à l'épreuve, parfois, souvent, avec des entrailles remplies d'amertume. Et parce que nous devons vivre avec la souffrance comme compagnon de route, comme notre Messie l'a fait, nous n'avons d'autre solution que de nous nourrir de cette parole, régulièrement. Avec persévérance, même quand on n'en a pas envie, même quand on a l'impression que dans cette traversée du désert, on n'a rien retenu. Si, on apprend toujours du cœur de Dieu. Enfin, dernière raison pour notre perfectionnement, étonnante raison, c'est pour que le plan de Dieu s'accomplisse. On pourrait presque oser dire pour que Dieu se décide, entre guillemets, à agir. On avait vu que la première raison du jugement de Dieu, c'était son trône, c'était le fait qu'il soit créateur et rédempteur. Il nous a créés, il a créé les hommes et il les a rachetés. Et donc, il a le droit et le devoir de juger. Et dans ces chapitres 5, 6 et 8, il nous est donné une deuxième raison pour que le jugement de Dieu soit effectif, c'est la prière des saints. Quel encouragement, mes amis. Si vous voulez que Dieu agisse, que Dieu stoppe enfin la souffrance générale en ce monde, le mal dans ce monde, il faut la prière des saints. Et dans ces passages 6 à 8, on voit que Dieu ne rompt pas encore son silence sur la terre aujourd'hui, mais on voit que ma prière rompt le silence dans le ciel. Et que tous les gens qui sont là autour de ce trône écoutent les prières des saints qui s'élèvent. Et c'est une belle image. Et le temps est constamment cité dans ce passage. Ça commence par « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et puis il y a un certain déroulé, un temps qui s'écoule avec des événements, jusqu'à cette phrase « Il n'y a plus de délai ». Chapitre 11, verset 15.
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.
Le temps est venu. Ce texte nous dit, notre Seigneur a pris possession de son règne. Et lorsque le texte nous dit ça, aussitôt le trône de Dieu n'apparaît plus comme un trône, mais comme l'arche de l'Alliance. Ça y est, l'Alliance de Dieu se manifeste. Et donc, ces promesses se réalisent. Mes amis, Dieu n'a pas honte de ce que vous traversez, car il connaît la place merveilleuse qu'il vous a préparée. Son alliance se manifeste et ses promesses se réalisent. La souffrance de Christ encadre, entoure la nôtre. La persévérance nous aide à avancer. Et ce qui nous porte aussi, c'est cette affirmation, il n'y a plus de délai. Chapitre 16, verset 17, le septième versa sa coupe dans l'air. Il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, c'en est fait. Chapitre 18, verset 20, ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Mes amis, un jour, nous nous tiendrons devant le trône, nous serons justifiés et plus personne ne pourra nous blesser. Et il n'est pas écrit « peut-être » si tout se déroule comme prévu. Il est écrit « c'en est fait ». Chapitre 7, verset 16.
Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil, ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et Apocalypse 21. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Mes amis, le jour vient où Dieu essuiera toutes nos larmes. Il n'est pas dit chacun pourra essuyer ses larmes, ce qui sera déjà bien. Dieu, l'avenir, le Dieu Tout-Puissant, hein, je ne dirais pas avec les gants de boxe, mais plus que ça encore, le Dieu de l'univers, de sa toute-puissance, qui va avoir la sensibilité et la délicatesse pour tenir le mouchoir sur ma joue, sur votre joue. Quel réconfort pour ceux qui sont dans l'épreuve, pour les cœurs blessés. Chapitre 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je conclue avec juste une remarque, parce que je ne savais pas comment le placer, mais ça m'a paru joli. Je dirais presque un pied de nez que Dieu fait pour nous rappeler combien c'est lui qui tient le monde dans ses mains. Quand vous avez les chapitres 13 et 14, il est parlé de la bête qui fait une marque sur les hommes et qui rend tout achat interdit. Si vous n'avez pas la marque, vous ne pouvez pas acheter. Et dans ce contexte, que nous dit le passage? Il nous dit que Christ a racheté des hommes de toute langue, de toute tribu, etc. Le monde dit interdit d'acheter. Mais celui qui règne fait ce qu'il veut. Et dans les mêmes chapitres, il nous explique que lui, il achète. Parce que c'est lui, le souverain. Pour terminer, on va lire Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Je vous invite à vous lever et puis on va relire ensemble assez lentement ce passage en insistant dans la lecture sur les mots soulignés. C'est pour que ça soit vraiment votre nourriture pour cette semaine. Nous aussi donc, puisque vous pouvez lire avec moi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Amen. Ne vous lassez pas durant toute cette semaine. Dans 15 jours, notre dernière étude portera sur Jésus-Christ vis-à-vis de notre loyauté dans le livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.